Voici l'abécédaire de la der des der. Comme urbanisme, Toulouse et ses résidences sécurisées. Parlons d'environnement, parlons des villes et de la prégnance d'un urbanisme de contrôle. Parlons d'un ordre des choses qui ne nous choque même plus vraiment, de la prolifération de la vidéosurveillance ou des résidences à accès sécurisé. Parlons de ce qui fait l'environnement actuel de plus de 75% de la population européenne. Parlons d'un dogme, celui du droit à la sécurité, dont usent et abusent les politiques, aidés en cela par les médias, les experts et autres technocrates, pour imprimer leur logique sécuritaire au sein même de la ville et de l'habitation. L'urbanisme a toujours servi à juguler les révoltes dans la cité. Haussmann, en son temps, avait fait du si bon boulot. Ou comment faire se disloquer la classe ouvrière en détruisant les faubourgs et en créant une classe moyenne, aspirant au modèle bourgeois de l'habitat individuel, avec sa corollaire, la cellule familiale regroupée sur elle-même. C'est de cette époque que proviennent les plaques émaillées, apposées sur certains immeubles de type haussmannien, avec marqué « eau et gaz à tous les étages ». Levez le nez, vous les verrez. Ce qu'on pourrait aujourd'hui considérer comme un progrès, comme l'accès à l'eau courante et au gaz de ville dans son habitation, a, en réalité, servi à péter les solidarités en détruisant les lieux de rassemblement et de rencontre. Fontaines, cafés, auberges, marchés, lavoirs et tout ce qui faisait le petit peuple grouillant des faubourgs. Et aujourd'hui, c'est tout l'espace public qui est résumé à cette logique sécuritaire. En destinant chaque espace à un usage, la ville se résume à son usage. Lieu de consommation et de travail, habitation et institution, lieu de culture et de loisirs, et pour desservir tout cela, voie de circulation. La dérive urbaine semble bien moins poétique d'un coup. Toulouse, ville pionnière des résidences sécurisées. Avant les années 1990, la résidence fermée était l'apanage des domaines d'exception. Puis, un promoteur toulousain, Monet de Croix, a été le premier à proposer aux classes moyennes des résidences clôturées avec contrôle d'accès, digicode, interphone, caméra, souvent avec piscine, parfois avec gardien, explique le chercheur François Madoré. Au début des années 2000, le phénomène s'est banalisé sur tout le territoire, déclare l'universitaire, co-auteur de plusieurs études sur ce thème. Selon lui, ces résidences représentent désormais de 12 à 13% des opérations immobilières, jusqu'à 20% dans le sud du pays. Leur essor a accompagné la montée d'une idéologie sécuritaire, mais aussi la recherche d'écrins de sérénité, explique-t-il. Les villes françaises, comme nombre d'agglomérations étrangères, sont marquées par le développement de ce que l'on dénomme, par défaut d'appellation spécifique en France, les ensembles ou enclaves résidentielles fermées. La nouveauté vient en réalité de l'ouverture à la vaste classe moyenne de cette forme d'habitat, qui était l'apanage auparavant d'un nombre limité de ménages fortunés. Ces complexes d'habitat se caractérisent à la fois par leur fermeture physique, murs ou clôture, et par un contrôle des accès pour les non-résidents. Quelles sont les logiques d'offre à l'origine de ces nouveaux modes d'habitat, en particulier celles déployées par les sociétés de promotion immobilière? En quoi cela joue un rôle déterminant dans la production d'habitat et donc dans la fabrique de la ville? Pourquoi les promoteurs intègrent-ils la clôture, mais aussi le contrôle des accès, dans la conception de leur programme? Et comment justifient-ils dans leur discours promotionnel cette double prestation? Dans cette émission, je me suis référée aux travaux de François Madoré, professeur des universités à l'Institut de géographie de l'Université de Nantes et chercheur, dont je vous livrerai des extraits. Retour sur le début des ensembles résidentiels fermés en France et la montée d'un ordre sécuritaire. Depuis quelques dizaines d'années, on a vu la montée des préoccupations sécuritaires s'inscrire profondément dans le discours des pouvoirs publics et chez les politiques, à tel point que cette argutie s'applique aujourd'hui à presque tous les domaines de la vie, au point d'induire de nombreuses pratiques professionnelles, et la conception des programmes immobiliers ne fait évidemment pas exception. L'époque étant marquée du sceau de l'insécurité, il devient impératif de promouvoir un habitat sécuritaire, donc fermé avec contrôle des accès. À partir des années 1970, les discours sécuritaires produits principalement par les acteurs politiques se multiplient en France. La publication en juillet 1977 du rapport Perfit, du nom du ministre de la Justice, marque l'enracinement dans la vie politique française de cette idéologie sécuritaire, qui associe défense des libertés et lutte contre une délinquance censée miner la société. Quelques extraits de ce rapport, au titre par ailleurs très explicite « Réponse à la violence », illustrent à merveille la façon dont l'insécurité est instrumentalisée par les pouvoirs publics. Ceux-ci prennent appui sur les enquêtes d'opinion et la multiplication des articles de presse pour légitimer l'urgence politique à agir. On lira ainsi page 18. Longtemps tenue en marge, la violence s'est installée au cœur de la cité. Pas encore en maîtresse, mais ce temps peut venir. Si rien n'est fait pour répondre à l'interpellation qu'elle nous adresse, ce temps viendra sans doute. Et un peu plus loin, dans la France d'aujourd'hui, une peur enfouie au plus profond de l'homme, mais effacée pour un temps des mémoires, est reparue sous la forme d'un sentiment d'insécurité. Le rapport Perfit de 1977 ancre donc l'idée que la violence ronge en son cœur la société française. La politisation de cette question sécuritaire a, dans un premier temps, fait l'objet d'âpres débats selon un clivage politique assez traditionnel. Une grande majorité de la gauche française refuse en effet, jusqu'aux années 1990, de s'approprier ce thème au nom d'une critique relayée par toute une partie de l'intelligentsia du contrôle social exercé par l'État. Thème alors très en vogue, sous l'influence en particulier des travaux de Michel Foucault. Toutefois, à l'aube du XXIe siècle, l'approche est beaucoup plus consensuelle, car une bonne partie de la gauche s'est à son tour appropriée cette question de l'insécurité. L'étape clé est bien connue, il s'agit du colloque de Villepinte en 1997, où le gouvernement Jospin à dominance socialiste a consacré la sécurité comme première des libertés et grande cause nationale, juste derrière la lutte contre le chômage. En parlant de la sécurité, le Premier ministre évoquait alors un droit fondamental de la personne humaine. Depuis, ce discours s'est tellement banalisé que l'on ne critique même plus la posture d'un État qui se donne la vocation de surveiller et punir, alors même que l'on sait les dérives totalitaires que cela induit. Et la majorité de la classe politique s'est approprié ce discours, comme l'illustre la large conversion des maires socialistes à la vidéosurveillance. Et les chercheurs en sciences humaines ne sont pas en reste. Ainsi, ils ont fourni depuis le début du siècle une imposante littérature cherchant à justifier ce discours. Une grille de lecture sécuritaire s'est imposée en France pour lire la société et ses évolutions. Un exemple caricatural parmi d'autres est fourni par l'effacement de l'analyse sociale de la banlieue populaire, incarnée par les grands ensembles, au profit d'un regard focalisé exclusivement ou presque sur les violences dites urbaines. Or, cette stigmatisation qui porte à la fois sur une catégorie d'individus, le jeune issu de l'immigration, et un territoire, la banlieue difficile, a joué un rôle important dans la représentation d'un pays en proie à une insécurité grandissante. Bref, les critiques de ce système ne se font plus guère entendre.
La banlieue nord d'Amiens, quadrillée. Une centaine de policiers étaient là en renfort, en plus des 150 présents la veille. Mais la nuit tant redoutée par les autorités locales est restée calme. 7 voitures ont certes brûlé, mais dans d'autres quartiers selon la préfecture. Ici, seul un feu de détritus a été signalé. Rien à voir donc avec les violents affrontements entre les forces de l'ordre et une centaine de jeunes de la veille. Après sa visite très mouvementée sur place mardi, le ministre de l'Intérieur a affiché sa fermeté sur le plateau de France 2.
Quel symbole ! On s'attaque à la République. L'ordre doit revenir, ce qui s'est passé est inacceptable.
Quant à la nuit prochaine, les autorités restent vigilantes. Un dispositif similaire à celui de mardi soir sera mis en place.
Des programmes résidentiels fermés partout. En 2007, 13% des programmes immobiliers neufs en cours de commercialisation étaient des résidences clôturées et fermées avec contrôle des accès. Si on en retrouve un peu partout en France, ils sont toutefois plus présents dans le sud et à l'est. Ce développement des programmes résidentiels fermés en France est pour partie le résultat d'une politique d'offre, et ce qui n'a rien de singulier à l'Hexagone. Les plus actifs et les plus précoces dans ce domaine ont été les principales sociétés spécialisées dans la défiscalisation immobilière qui ont la particularité d'être basées à Toulouse. Aqueris, Monnaie de Croix, Omnium Finance. Puis, le phénomène s'est diffusé géographiquement à l'ensemble du territoire. Par effet de mimétisme, cette prestation est devenue progressivement basique, incitant toute la profession à s'aligner. Il s'ensuit alors une banalisation de la rhétorique sécuritaire dans la rédaction des descriptifs des programmes immobiliers neufs, qu'ils soient clôturés ou non d'ailleurs. De fait, les expressions du genre « nous avons pensé à votre sécurité », tout a été conçu pour assurer votre sécurité. Confort, sécurité et qualité sont les maîtres mots de ce programme. Sont légion dans les descriptifs des programmes en cours de commercialisation, sans pour autant que l'on sache bien toujours ce qu'ils signifient. Cette référence à la sécurité est devenue une sorte de figure imposée, comme l'est également celle du développement durable. Cela part d'une conviction partagée par tous les promoteurs. La sécurisation d'un complexe d'habitat, illustré par sa fermeture à l'aide d'une clôture et d'un contrôle des accès, est devenue une prestation valorisant l'ensemble résidentiel. Autrement dit, c'est un argument vendeur.
Toulouse 31200. Au calme, dans une résidence sécurisée, cet appartement de type T2 vous séduira pour son agencement et pour la qualité de la résidence.
Toulouse, dans la résidence sécurisée avec piscine et tennis, les Oustalou, route d'Espagne, appartement avec vue dominante et dégagée.
Les promoteurs immobiliers français estiment tout à fait inconcevable de construire aujourd'hui un complexe résidentiel qui ne soit pas équipé d'une panoplie d'éléments de sécurisation permettant de garantir aux résidents qu'il n'y aura pas d'intrusion indésirable, ou du moins que celle-ci soit rendue difficile. Pour atteindre cet objectif, plusieurs types d'installations vont être mises en œuvre afin de filtrer l'accès à la résidence. Portail ou portillon automatique avec code d'accès ou badge pour les résidents, puis pour les visiteurs, interphone, digicode et visiophone. Un système de vidéosurveillance peut aussi être mis en place, voire la présence d'un gardien.
Dans une résidence sécurisée, salle de sport, de TV, présence sur place d'un régisseur en permanence.
Pour tous les promoteurs français interrogés, sans exception, la mise en œuvre de la clôture et du contrôle des accès dans la conception de leur programme immobilier est une réponse à la demande exprimée par la clientèle. Toutefois, cette demande est rarement connue avec précision. Elle est soit appréhendée de façon empirique à partir du ressenti des commerciaux, soit le fruit du constat suivant. Comme les programmes immobiliers fermés se vendent bien, c'est donc qu'ils répondent aux attentes de la clientèle. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Mais le client potentiel est-il réellement en position de choix dès lors que la fermeture et le contrôle des accès se banalisent à la plupart des résidences ?
Au calme dans une résidence sécurisée, par vidéosurveillance, possibilité parking couvert et surveillé.
La clôture et le contrôle des accès sont censés éviter que des non-résidents, issus en particulier du voisinage, n'utilisent les équipements privatifs de la résidence, tels que la piscine ou les espaces verts, voire le court de tennis, comme s'il s'agissait de biens publics. Dans un entretien mené par François Madoré avec un promoteur toulousain, ce dernier explique « En France, on marque la propriété. On se sent un peu plus chez soi, je pense, quand c'est clôturé. » Avec les espaces verts, la piscine, le tennis, il fallait clôturer pour avoir sa piscine pour soi, son tennis pour soi, et ne pas faire le tennis municipal et la piscine municipale. Je pense qu'au début, c'était ça le clôturer, bien au-delà du problème de l'insécurité. Et c'est donc de là que vient ce supposé penchant du public pour les résidences fermées. En allant dans le sens de leur instinct grégaire, de leur volonté d'appropriation et du marquage de la propriété, on va justifier la clôture, l'enceinte, le portillon et tout l'armada de sécurisation qui va avec. À cela, on va alors surimposer un ensemble de logiques sécuritaires, réelles ou fantasmées, qui finiront par justifier ces installations. Et cette tendance s'exprime non seulement en France, mais sur toute la planète. En France, le discours promotionnel dominant renvoie à la prévention des cambriolages dans les logements et au vol ou dégradation de véhicules. La fermeture de l'espace résidentiel est donc perçue comme une parade susceptible d'assurer une protection relative contre ces deux cibles privilégiées des voleurs. Ce discours s'appuie sur les résultats de l'enquête annuelle de victimation dite « cadre de vie et sécurité » publiée par l'Observatoire national de la délinquance, qui montre que la victimation observée en France renvoie essentiellement au risque d'être confronté au vol et autres cambriolages. Ainsi, environ 2,2 millions de ménages en 2007, soit 8,3% d'entre eux, ont subi l'année précédente un vol ou une tentative de vol visant un de leurs biens, véhicules ou résidences. Tandis qu'un peu plus de 800 000 personnes de 14 ans et plus, soit 1,6% d'entre elles, ont déclaré avoir subi au moins un acte de violence physique en dehors des vols et hors du ménage. Sinon ça ferait exploser les chiffres, hein. Autrement dit, si le risque d'agression reste très faible, toujours hors ménage, ce n'est pas le cas pour les atteintes aux biens. Près d'un ménage sur 10 est concerné chaque année. Fort de cette réalité, il s'agit pour les promoteurs d'essayer de dissuader toute intrusion indésirable dans le complexe résidentiel et de compliquer la tâche d'un cambrioleur, ce qui passe par la multiplication de filtres, que ce soit pour pénétrer dans l'ensemble résidentiel ou pour s'y déplacer une fois l'intrusion réussie. D'après un promoteur toulousain toujours, c'est à la demande de tous nos clients parce que de plus en plus il y avait un peu de délinquance et les gens voulaient se sentir en sécurité dans leur résidence. Et ça devient un point très important, les gens sont très sensibles à l'heure actuelle à la sécurité. On parle de la sécurité de l'appartement, mais il y a aussitôt derrière le véhicule, le bien matériel qu'on veut protéger. Il faut désormais vendre de la sécurité. Même si, comme ici, on entretient sciemment la confusion entre la sécurité physique des personnes, qui pourrait s'apparenter à du bien-être, et la sécurité résumée à la protection des biens matériels du résident. La sécurisation de l'habitat est censée apaiser les inquiétudes des Français, même si l'invocation régulière d'un ordre sécuritaire, sans cesse convoqué à l'agenda politique et médiatique, contribue paradoxalement à alimenter le sentiment d'insécurité, en rappelant sans cesse la permanence de la menace, la peur de la criminalité, la peur de l'autre, la peur de celui qui est différent mais si proche. Voilà ce qui sous-tend ces cloisonnements. Ce sont les murs dans nos têtes qui se matérialisent, rien de plus. Mais quelle est l'efficacité réelle de la clôture et du contrôle des accès face aux actes délictueux ? En fait, la plupart des promoteurs interrogés, et certains le reconnaissent sans embâge, manquent d'éléments pour répondre correctement à cette question. Mais ça ne semble pas les inquiéter plus que cela, car le discours promotionnel est largement relayé et justifié par la rhétorique sécuritaire qui inonde par ailleurs la société dans son ensemble. Au final, peu importe de savoir si réellement la clôture et le contrôle des accès sont bien dissuasifs en termes d'actes délictueux, l'important, c'est d'en être convaincu. Et si les promoteurs ne peuvent pas jauger l'efficacité des dispositifs de sécurisation, fermeture qu'ils mettent en place, les enquêtes de victimation, mais aussi différents travaux, semblent montrer une certaine capacité de ces dispositifs à diminuer le risque d'être victime d'un acte délictueux. Ainsi, la victimation enregistrée en France en 1996, enquête permanente sur les conditions de vie des ménages, et 2007, enquête cadre de vie et sécurité, montre que, depuis le milieu des années 1990, les vols spécialisés comme les vols de voitures, les vols à la roulotte, vols d'objets ou sur ou dans la voiture, ainsi que les cambriolages, ont nettement diminué. Cette baisse est sans doute due à la généralisation des systèmes de protection. En 1996, 13,5% des ménages ont eu à déplorer un vol lié à la voiture au cours des deux dernières années précédant l'enquête. Cette part est passée à 8,6% en 2005 et 8,3% en 2007. Pour les cambriolages, la part passait de 3,5% à 2,5%. Si les murs font baisser la criminalité, les travaux de messieurs Atlas et Leblanc en 1994 ont montré qu'ils ne font que la reporter sur des espaces résidentiels proches, non protégés par une enceinte. Donc le problème est juste déplacé. Le marché de la sécurité privée, un business florissant. Comme le constate François Madoré, la forte imprégnation des logiques sécuritaires dans l'habitat en France constitue un témoin, parmi d'autres, de l'inscription durable dans la société française d'aujourd'hui d'un ordre sécuritaire. Autre témoin de cette imprégnation, le marché de la sécurité privée prospère. En 2008, selon le Syndicat national des entreprises de sécurité, ce secteur emploie environ 165 000 salariés répartis dans 2820 entreprises pour un chiffre d'affaires global de 4,8 milliards d'euros, dont 3,6 milliards exclusivement pour la surveillance humaine. Par ailleurs, attestant du dynamisme tout à fait exceptionnel de ce secteur d'activité, la croissance entre 1998 et 2008 de l'emploi tout type de prestations confondues est exponentielle, avec plus 9% par an. Par comparaison, les effectifs de gendarmerie et de police réunis, hors personnel administratif, technique et scientifique, s'élèvent en 2008 à 225 000 personnes. Autrement dit, pour 4 gendarmes et policiers, il y a désormais près de 3 agents de sécurité privée. Et le ministère de l'Intérieur ne prévoit-il pas que dès 2014, les effectifs de la sécurité privée pourraient dépasser ceux des forces publiques? Drôle de société de barbouze qui s'annonce là. Que nous dit cette prolifération de systèmes de surveillance et d'enclosures sur notre manière d'habiter la ville? Pourquoi cette volonté de contrôle et de gestion du risque omniprésent? La fabrique urbaine et de l'habitat en particulier est désormais largement imprégnée de cette promotion d'un ordre sécuritaire par les pouvoirs publics, avec deux tendances fortes qui se dégagent. La première est précisément la promotion d'un urbanisme et d'un habitat sécuritaire, l'un des effets de l'importation en France des théories d'origine anglo-saxonne de prévention situationnelle et d'espaces défendables. La prévention situationnelle porte sur les conditions matérielles et les circonstances dans lesquelles un délit pourrait être commis. Cela regroupe tous les dispositifs censés permettre qu'une situation n'arrive pas, en l'occurrence une situation d'insécurité, et ce, en agissant sur la structure même du bâti des villes, sur l'organisation sociale des espaces urbains, publics et privés, voire sur l'incitation des habitants à participer eux-mêmes à leur propre surveillance. Via la possibilité de visionner les images des caméras à l'entrée de la résidence, par exemple, ou l'incitation à relever systématiquement les dysfonctionnements divers. Elle est aussi appelée sécurité passive. La deuxième tendance est le recours désormais massif à la technologie, en particulier à la vidéosurveillance.
Dans une résidence sécurisée par vidéosurveillance,
le gouvernement français mise ainsi massivement sur cette technique au nom de la lutte contre la délinquance. En 2012, le territoire français comptait 935 000 caméras de vidéosurveillance. Il s'agit de la somme totale comprenant les caméras de voie publique, celles des transports en commun, des commerces, des entreprises, des distributeurs de billets, etc. Ces dispositifs modifient les modalités du contrôle social des lieux publics ou des espaces privés ouverts au public, comme dans les transports, les centres commerciaux et même sur les lieux de travail. En 2011, la Cour des comptes dressait un bilan accablant de ces dispositifs. Elle questionnait sur les coûts très importants, sur l'efficacité non démontrée et sur le peu de rigueur dans le respect de la vie privée. Sans répondre à ces préoccupations, de nouveaux dispositifs sont installés continuellement. L'espace public devient la propriété de technologies intrusives, déplaçant la vie de la cité dans les angles morts. Les habitants sont déresponsabilisés puisqu'une force invisible est censée réguler et protéger l'usage de nos espaces de vie en commun. C'est ainsi que 75% des Français qui n'ont rien à cacher se déclarent favorables à la vidéosurveillance, alors même que cette nouvelle forme du contrôle social direct et visible imprime sa logique normalisatrice à l'ensemble de la société et modifie insidieusement mais profondément les comportements des individus entre eux. Sous couvert de protection des individus, l'arsenal dédié à la gestion du risque est devenu omniprésent. Mais de quel risque se protège-t-on vraiment en faisant cela ? Déjà, au début de la décennie 1980, des sociologues développaient cette thèse de la gestion du risque en montrant que l'insécurité était au cœur du fonctionnement de la société. La gestion des risques devient la nécessité première pour survivre dans un monde où virtuellement tout peut arriver à tout moment, d'après Ackermann en 1983. L'extension des logiques de contrôle de l'espace dépasse donc les seuls territoires résidentiels. Il répond à cette volonté de maîtriser le maximum de risques et de protéger la population de la prolifération en son sein de menaces multiples. Petite délinquance de prédation, incivilité, violence urbaine, mais aussi réitération de la menace terroriste, justifiant depuis des années le maintien du plan Vigipirate, etc. Bref, l'ennemi intérieur, tel qu'évoqué par Mathieu Rigouste, étant omniprésent et prenant des formes variées, l'état de vigilance s'impose à tous, légitimant l'action des pouvoirs publics en faveur d'une mise sous surveillance de la société. Le philosophe Fossel démontre bien les mécanismes de développement d'un état qu'il qualifie de libéral autoritaire, qui prospère à mesure de l'affaiblissement de l'état-providence. C'est donc une apparence de restauration de la puissance étatique à laquelle nous assistons. En réalité, c'est bien un véritable aveu d'impuissance. Car à défaut de pouvoir agir sur le registre des protections économiques et sociales dans un cadre national ouvert aux logiques de mondialisation, l'État-providence affaibli investit le champ sécuritaire, surfant sur la multiplication des risques et des peurs, ce qui lui sert d'alibi pour restaurer sa puissance. Quand on parle de violence et d'insécurité, on ne parle que très rarement, sinon sur le mode allusif, des violences d'ordre économique, institutionnel ou symbolique infligées aux couches populaires dans une société de plus en plus inégalitaire. Pas plus que de l'insécurité qui en résulte sur le plan matériel, professionnel, résidentiel, sanitaire, alimentaire, mais aussi psychologique et existentiel. Face à l'incapacité à résoudre un problème, on peut toujours réguler sa non-solution. Et c'est à cela que s'emploient les experts décrivant les politiques de la ville et les urbanistes, en prenant le territoire comme cadre de réflexion et d'action, via la mise en œuvre de deux théories. Le spatialisme, qui postule un rapport casual direct entre forme spatiale et pratique sociale, qui permet de transmuer des problèmes propres à un certain type de société en problèmes dus à un certain type d'espace. On voit très bien ce mécanisme à l'œuvre dans le traitement du problème des banlieues. Il en découle que les solutions seront elles aussi spatiales, c'est-à-dire architecturales et urbanistiques. Opération Habitat et Vie sociale sous Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, Banlieue 89 sous Mitterrand, Renouvellement urbain avec Lionel Jospin et Rénovation du logement social aujourd'hui. Or, toutes ces opérations de réhabilitation et autres requalifications de l'espace habité ont rapidement montré leurs limites, puisqu'elles ne changent rien au fond du problème. C'est littéralement du cache-misère. L'autre théorie mise en œuvre, c'est le localisme qui complète le spatialisme et qui consiste à formuler, étudier et à traiter les problèmes là où ils se manifestent, même si la source du problème en question vient d'ailleurs. Placé sous le signe de la proximité, ce traitement in situ au plus près de la population ne s'en tient qu'aux facteurs et aux solutions les plus directes. Et c'est sur ce terreau que prolifère désormais cet ordre sécuritaire qui imprime sa marque à la gestion du territoire, amenant l'ensemble des acteurs de l'habitat à succomber à la surenchère sécuritaire. Les promoteurs conçoivent des programmes fermés avec contrôle des accès et vendent de la sécurité dans leurs discours promotionnels. Les bailleurs sociaux érigent grilles et codes d'accès en multipliant les opérations de résidentialisation. Les assemblées de copropriétaires votent à tour de bras la mise en place de dispositifs de contrôle des accès à l'entrée de leur résidence et les municipalités de gauche comme de droite s'enorgueillissent d'installer, même dans les plus petites villes, des systèmes de vidéosurveillance hors de prix. Et comme on sait que ces résidences toutes neuves sont construites avec des matériaux de médiocre qualité, on peut imaginer que dans quelques années, toutes ces résidences sécurisées seront dans un état de délabrement tel que les classes moyennes les déserteront, laissant la place à des populations plus pauvres qui iront s'enfermer de leur propre volonté, poussées en cela par la baisse des loyers dans ces bâtiments. Une gentrification à l'envers, quoi. Bon, c'est une hypothèse. Les morceaux de musique qui ont servi pour l'habillage sonore sont de Alt F4, placés sous licence Creative Commons, trouvés sur la plateforme de musique libre Hip Hop Domain. Il y a le morceau Elf Blood, Postulation et White Line.
Et tu sais que les girafes, ben ça n'existe pas.
Ah bon?
Eh ouais, c'est un coup monté.
Radio Girafe. Des ateliers d'initiation à la radio et aux médias 2.0 proposés par l'association d'éducation populaire Gudule et Galipette. Retrouvez-nous sur internet www.gudule-galipette.fr.